Bonjour, ici François Nardou depuis le studio du Boulevard. Alors aujourd'hui, nous sommes au nouveau jour de l'enregistrement, le 15 mars. Vous l'entendrez par la suite. Nous sommes le jour des anciennes ides romaines de la Rome primitive, pleine lune du calendrier romain archaïque au temps des rois et des origines. Et en ce 15 mars, nous replongeons dans le flux du temps. Ce flux du temps connu par les philosophes grecs depuis Héraclite, et ce plongeon dans le flux du temps, constitue pour nous une nouvelle naissance, un acte baptismal, des Pâques éternelles plus anciennes que le christianisme. En effet, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est une chose qui m'a frappé, qui est assez curieuse. Autant les solstices d'hiver et d'été sont marqués dans notre calendrier religieux, mais aussi populaire, par des festivités diverses, Noël, la Saint-Jean d'été, autant les équinoxes de printemps et d'automne sont peu marqués de fêtes populaires. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'équinoxe ? C'est deux fois par an, 20-21 mars, 20-21 septembre, le moment où le soleil est dans le ciel à la verticale au-dessus de l'équateur. Alors que au solstice, le soleil est à la verticale pour le solstice d'été, au-dessus du tropique nord, du tropique du Cancer. Et lors du solstice d'hiver, il est à la verticale, au-dessus du tropique sud, le tropique du Capricorne. Au moment de l'équinoxe, si au moment des solstices, les jours sont, pour Noël, les plus courts et les nuits les plus longues, et pour le solstice d'été, les jours sont au plus long et les nuits les plus courtes, pour les équinoxes, c'est tout à fait différent. Les équinoxes sont marqués par le fait que les jours sont égaux aux nuits. Autant d'heures de jour que d'heures de nuit. Alors, il y a un proverbe d'oc, et qui est assez étrange, parce qu'il nous enseigne que dans nos régions, cette égalité de temps entre le jour et la nuit se produit dès la mi-février, dès le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Per miez février, surna lentier. À la mi-février, journée complète de travail, sans besoin de lumière artificielle. On vous dira aussi, per février, fleurisse l'amélier. En février, fleurit l'amandier. Donc, si vous voulez, l'amandier serait un arbre qui, par sa floraison, serait en rapport avec l'équinoxe de printemps. Ce n'est pas sans raison quand on sait qu'en Iran, encore de nos jours, Iran chiite, mais depuis les origines même de l'Iran, bien avant l'islam, la fête de changement d'année, le nouvel an, est située pour l'équinoxe de printemps. C'est le fameux Nowruz, la nouvelle lumière, qui, pour les Iraniens, est la date traditionnelle de floraison des amandiers et des abricotiers. Alors, la floraison de l'amandier évoque toute une symbolique dont on retrouve des traces à la fois dans nos proverbes, dans notre culture d'oc. Pensez au secanto che cante, d'abat ma finestro io un amelier, fa des flous blancos como des papiers. Devant ma fenêtre, il y a un amandier, il fait des fleurs blanches comme du papier. On le retrouve au tympan du porche nord de la cathédrale de Cahors, représentant la vision de Saint-Étienne le jour de son martyre le 3 août. Saint-Étienne voyant le Christ revenir dans la gloire à la fin des temps, dans la gloire éternelle de Dieu, la kabod, figurée par la mandorle. Qu'est-ce que c'est que la mandorle? Cette espèce de signe en forme de losange arrondi dans lequel apparaissent, dans l'iconographie chrétienne, uniquement deux personnages, le Christ et sa mère, la Sainte Vierge. C'est exactement ce qu'on appelle en persan ancien le Hvarna, la gloire divine des rois. Et cette mandorle n'est pas autre chose que la figuration synthétisée, je dirais résumée, d'une amande entrouverte. Et l'amande entrouverte, c'est le produit de la fleur d'amandier. Or, la fleur d'amandier, en hébreu, ça se dit laus. Ça va donner en latin losanica, d'où vient notre mot losange. Le losange, c'est la base même de la structure à la mandorle, et la mandorle, c'est la fleur d'amandier ouverte où apparaît le Christ dans sa gloire, comme on dit dans le monde bouddhiste, le joyau caché dans le cœur du lotus. Et cette mystique, si vous voulez, de l'équinoxe de printemps marque particulièrement nos pays d'oc à travers leur christianisme et leur pratique, comment dirais-je, populaire du catholicisme. Alors, en Quercy, nous sommes bien placés pour ça, car nous avons différentes œuvres de l'architecture ou de l'art médiéval qui se réfèrent à ces fêtes de l'équinoxe de printemps. Qu'est-ce que c'est d'abord que cet équinoxe également? Qu'est-ce que c'est que l'équinoxe de printemps dans le monde ancien? C'est, en Palestine, une fête de nouvel an des bergers qui va donner naissance à la fête de Pâques. Ça correspond à la pleine lune du mois du printemps, Aviv. Pensez à Tel Aviv, la colline du printemps. Mois d'Aviv devenu mois de Nissan après le retour de l'exil à Babylone. Et l'importation en Palestine de rites babyloniens qui sont aux origines même de la procession des rameaux, telle que décrite dans les évangiles, l'entrée du Christ à Jérusalem, fêtée encore lors des rameaux, où il séjournait, d'après l'évangile de Saint Jean, depuis la fête de Soukhot précédente. Soukhot, c'est à l'automne. C'est la fête des tentes, la fête des tabernacles. Le Christ entre à Jérusalem le septième jour du mois de Nissan, ancien mois d'Aviv. C'est ce qui est représenté, par exemple, à Rouillac, sur les fresques du mur nord, avec la symbolique des pierres cubiques d'or qui figure la Jérusalem céleste de l'Apocalypse de Saint Jean. Le Christ est monté sur un ânon, ce qui veut dire qu'il a accès à la connaissance de Dieu. C'est un jeu sur le sens, la valeur profonde des lettres dans le mot employé en hébreu. Ça préfigure la vision du char divin qui est peint à la voûte du cœur de Rouillac. Et cette procession des rameaux est une entrée royale. Elle se situe donc un jour qui correspond symboliquement à l'équinoxe de printemps. Équinoxe de printemps qui précède de peu la fête hébraïque de Pessah pour la pleine lune, la fête de Pâques, fête aux origines, fête des bergers, devenue fête de l'onction royale du Christ entrant à Jérusalem. Alors est-ce que nous aurions là un vieux calendrier oublié, les origines ou les faire remonter? Chose que j'avais oublié de vous dire, c'est que ce principe d'égalité qui est aux origines de la fête d'équinoxe, égalité entre le jour et la nuit, a des origines beaucoup plus anciennes, en fait bien antérieures au christianisme. Ce que l'on retrouvera du reste à propos de la symbolique de Rocamadour et des fêtes du Grand Pardon et de la Grande Indulgence à Rocamadour en mars-avril. Alors, ce principe d'égalité entre le jour et la nuit se manifeste, s'exprime dans le monde chinois par la référence à l'engendrement mutuel et réciproque du yang et du ying. Du ying, sombre, hivernal, né le yang, clair, estival. Le principe féminin, femelle, fenêtre, le principe mâle, qui à son tour engendre le principe femelle. Et ainsi et l'année ainsi bascule d'un pôle à l'autre, d'un pôle équinoxial à l'autre pôle équinoxial. Alors que dans nos régions d'Europe, l'année bascule plutôt du pôle solstitial d'hiver au pôle solstitial d'été et retour au pôle solstitial d'hiver. En Chine, du Nord, ce sont plutôt les équinoxes qui font basculer l'année. C'est dicté tout simplement par les rythmes de l'année agricole dans la Chine du Nord. Et ce principe d'opposition entre le sombre et le clair, entre le jour et la nuit, qui se manifeste donc aux équinoxes d'automne et de printemps, en Chine est né de l'observation du paysage, ce qu'on appelle l'orographie, la géographie montagneuse ou montagnarde, si vous voulez, du nord de la Chine, est structurée par des chaînes de montagnes qui vont de l'ouest vers l'est. Elles s'abaissent de l'ouest vers l'est. C'est-à-dire que le versant éclairé le matin est à l'ombre l'après-midi et inversement. Et c'est de là qu'est née, par l'observation du paysage, l'idée que l'univers était régi par l'alternance complémentaire et opposée de deux principes appelés le yin et le yang, et qui sont des principes qui se manifestent notamment au moment des équinoxes de printemps et d'automne. Alors on a donc, si vous voulez, avec l'Iran et la fête du Nowruz, la Chine avec le yang et le yin, nos régions de l'Occitanie chrétienne et catholique, notamment du Quercy, et la procession des rameaux et la fête de Pâques, qui sont dans le Quercy ancien les véritables fêtes importantes du printemps. C'est ce qui m'avait toujours frappé dans nos régions, dans le folklore au sens exact du terme, c'est-à-dire la science du peuple. Dans le folklore occitan méridional, les grandes fêtes ne sont pas les fêtes de Noël, comme dans l'Europe du Nord, mais c'est aussi en partie la fête de Saint-Jean, le Saint-Jean d'été, c'est surtout vrai dans les Pyrénées, mais les grandes fêtes sont des fêtes de printemps, qui tournent autour des rameaux, de Pâques et de Pentecôte. Et cette fête des rameaux, qui est la grande fête qui fait vraiment sortir nos régions d'og de l'hiver, est une fête de procession royale, d'entrée royale du Christ à Jérusalem, destinée à recevoir l'onction qui fera de lui le roi messie d'Israël. Ça se terminera différemment. Ce vieux calendrier donc nous introduit vers quelque chose qui demande un peu plus d'explications après un petit intermède musical. Ooh.
tes cheveux dansant. Réchauffe-toi, mordis le soleil sur ta peau qui sommeille. L'oiseau qui nourrit ses tout petits. Approche-toi des bourgeons naissants, c'est le printemps.
Alors, pour en revenir un peu à l'équinoxe de printemps, on a noté que cet équinoxe de printemps au 21 mars était aussi l'entrée dans le signe du Bélier, qui est un signe solaire. On a noté que c'est la vision de Saint-Étienne au tympan du porche nord de la cathédrale de Cahors. À l'équinoxe de printemps se situerait la vision de la lumière éternelle et infinie. Or, ce qui en Quercy est important, c'est quelque chose que je tiens de tradition familiale, et dont je n'ai pas trouvé confirmation dans l'ouvrage d'Ernest Rupin sur l'histoire de Rocamadour. Alors voilà ce que me racontait ma mère, et je vais le comparer avec ce que dit Rupin. Ma mère me disait, et mon père confirmait la chose, que dans le Quercy ancien, lorsque le vendredi saint, crucifixion du Christ, ou le dimanche de Pâques, résurrection, correspondait au 25 mars, c'était une année particulière dans la religion du Quercy ancien, une année de grand pardon et une année jubilaire si on faisait un pèlerinage à Rocamadour. C'était vrai à Rocamadour essentiellement. Chose que j'oubliais de vous dire, oui. L'équinoxe de printemps m'a paru être marqué par deux dates principales. La Saint-Joseph le 19 mars et l'Annonciation le 25 mars. Alors la Saint-Joseph le 19 mars, bon, c'est la fête de Saint-Joseph, pas de problème. Si ce n'est qu'en Quercy du Sud, c'était la date d'une grande foire à Montauban où à laquelle on se croyait obligé de participer. Et quant au 25 mars, jour de l'Annonciation, c'est la fête par laquelle l'Église commémore l'Annonciation faite à la Sainte Vierge par l'ange Gabriel, qu'elle va être la mère du Sauveur, du Christ, si vous voulez. Et dans les mentalités anciennes, on considérait que lorsque cette Annonciation de l'incarnation du Verbe divin éternel, en la personne de Jésus de Nazareth, lorsque cette Annonciation se situe un jour qui correspond cette année-là au vendredi saint ou au dimanche de Pâques, on est donc dans une année particulièrement riche de symboles et de, je dirais, de vertus, de puissance. Et ça aurait été à Rocamadour, dans le calendrier ancien de l'église de Cahors, enfin disons du Quercy, parce que bon, c'est Rocamadour, vous le savez, a dépendu des abbés de Tulle, devenus évêques de Tulle, plutôt que des évêques de Cahors, bon c'est très compliqué, peu importe. Et on considérait, si vous voulez, que cette année-là était une année particulière dans le diocèse de Cahors et une année d'indulgence, une année jubilaire. Les gens qui allaient en pèlerinage à Rocamadour cette année-là, pour la fête de l'Annonciation, voyaient leurs péchés pardonnés. Or, dans Ernest Rupin, je ne trouve pas du tout la même chose. Ernest Rupin me dit que lorsque Pâques tombe le 25 avril, ce qui peut arriver quelques années, c'est une date très tardive, la fête Dieu, c'est-à-dire la fête du Saint-Sacrement, va correspondre, tant de jours après Pâques, à la fête de Saint-Jean-Baptiste, le solstice d'été. Et cette année-là serait une année jubilaire en Quercy. Alors j'ai deux versions différentes, je ne sais pas trop laquelle est la bonne, mais ça nous montre un peu l'importance et la relation qui était établie dans le Quercy catholique ancien entre les fêtes de l'équinoxe de printemps et celles du solstice d'été. Il y avait un lien entre les deux, un lien mystérieux, et qui se manifestait particulièrement à Rocamadour, à travers les liturgies qui sont célébrées autour des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, de la fête Dieu, de l'Annonciation et, disons, les fêtes mariales en général. Il faut savoir qu'à Rocamadour, la fête mariale la plus importante, c'est le 8 septembre, la Nativité de la Sainte Vierge. Alors, ceci nous amènerait à voir probablement, dans le Quercy ancien, la persistance, le maintien, la maintenance, la perpétuation de vieux mythes, de vieux rites, de traditions qui ont pris des formes chrétiennes, mais qui ont une origine beaucoup plus ancienne que le christianisme. Est-ce que nous aurions là, en Quercy, une mythologie plus ancienne que le christianisme, mais qui serait une mythologie christique, en quelque sorte? Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant, après un petit intermède musical.
Les matins sombres s'éloignent et je sens frémir la terre. Elle, ma douce compagne, dans l'ombre et la lumière, cercle de feu crêpe lunaire. J'invoque les esprits puissants, guérissez mon corps et mon âme, bénissez mes nombreux plans. Tous tes visages en les rayons d'or du soleil. Imbolque, 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 imbolque. J'ouvre mes bras, mes deux mains, comme la petite poupée de grain, accueillons les jours nouveaux, sortons doucement du sommeil, accueillons les jours nouveaux, sortons doucement du sommeil.
Bien. Alors, pour essayer de reprendre un peu pied dans nos affaires, il y a une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que, assez curieusement, dans le Quercy ancien, le 25 mars, annonciation faite à la Sainte Vierge qu'elle va être la mère du Sauveur, équinoxe de printemps liturgique, ce 25 mars était, à Montcuq et dans tout le Quercy blanc, la date de changement d'année. C'est-à-dire qu'on se couchait le soir du 24 mars de telle année donnée et on se levait le matin du 25 mars de l'année suivante. Il y avait un changement d'année qui était un passage, un renouvellement du temps. Et ce retour du temps se traduisait donc dans nos paysages, dans l'architecture religieuse, par une certaine orientation des édifices religieux, des édifices sacrés. Vous savez qu'en principe, le point absidal d'une église, c'est-à-dire le point où elle indique la ligne axiale médiane d'une église, indique à l'est, à l'horizon, le point où le soleil se lève à tel jour de l'année. Ça correspond souvent au point où le soleil se lève le jour de la fête du Saint-Patron, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être le point où le soleil se lève le jour du solstice d'été ou de l'équinoxe de printemps. Alors à Montcuq, je pense que c'est plutôt le jour où Saint-Hilaire est axé vers le lever du soleil au solstice d'été, et en fait vers le lieu de Saint-Jean-le-Froid, qui est lui-même un lieu, je vous en ai parlé dans une des émissions précédentes, en rapport avec le lever du soleil au solstice d'été. Alors l'équinoxe de printemps correspondrait donc, par les hasards de l'histoire ou par la providence divine, selon ce que l'on voudra, au moment de l'année où eut lieu la passion, la mort, la résurrection du Christ. On peut se demander ce qu'il en aurait été si celui-ci avait été crucifié à un autre moment de l'année, en hiver ou en plein été. Au fond, la charge symbolique de Pâques, dans nos mentalités européennes, méditerranéennes, chrétiennes, elle vient de ce que la fête qui commémore la passion, la mort, la résurrection du Christ, a lieu, en gros, au moment de l'équinoxe de printemps, au moment du renouvellement, oui, de la nature au printemps. C'est quand la lumière triomphe sur les ténèbres, quand la nature reprend sa verte, jeune et neuve nouveauté, et pleine nouveauté, que a été fixée la date de Pâques, que s'est trouvée par le hasard des circonstances, produite la passion, la mort et la résurrection du Christ. C'est un hasard, en quelque sorte, assez curieux, parce que dans d'autres régions du monde, la chose n'a pas la même valeur, n'a pas la même charge symbolique. Du reste, c'est pas pour rien si, et c'est très bien figuré dans le cœur de l'église de Rouillac, qui nous montre la crucifixion du Christ, le mur de fond, le mur est, tourné vers les fidèles, visible des fidèles, la fresque montre la crucifixion du Christ. Et celui-ci donc meurt, il est figuré sur la croix, déjà mort. Le corps est blanc, il tourne le dos à Jérusalem, et il penche sa tête vers où ? Vers le nord-ouest du monde, qui, dans le monde sémitique ancien, était le monde de l'obscurité, le monde des ténèbres. Le nom qu'on lui donne est à l'origine du mot grec de l'Ereb, c'est Irib. Irib, en fait, ça va donner le nom de l'Euphrate. Le pays au nord-ouest de l'Euphrate, c'est le pays de l'Europe, au fond. Au fond, l'Europe est la région du monde vers laquelle le Christ tourne son visage lorsqu'il meurt. L'Europe était destinée en quelque sorte à devenir chrétienne, à recueillir l'héritage du christianisme, et à être en quelque sorte pénétrée, imbibée, avoir sa culture totalement mise en forme par le christianisme. Et cette mort du Christ qui se situe le 14e soir du mois hébraïque de Nissan, l'ancien mois d'Aviv, équivaut à notre vendredi saint, veille du Shabbat de Pessah, l'année même de la mort du Christ, puisque cette année-là, les fêtes de Pâques, de Pessah, fêtes de bergers aux origines, qui dure 8 jours, commençait un jour de Shabbat, un samedi. Cette coïncidence entre des dates du calendrier astronomique et du calendrier religieux hébraïque a particulièrement marqué l'imaginaire européen, puisqu'il se trouve que cette fête de Pâques, fête de la résurrection, est aussi celle du retour de la régénérescence, de la régénération de la nature. Et cela va se traduire donc en Quercy par des liturgies populaires, des liturgies, des traditions, des coutumes. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ce que m'avait raconté ma mère, mais là, il y a quelque chose qui me revient, de la fameuse foire de Saint-Joseph à Montauban, foire du 19 mars. Alors, c'était assez curieux parce que d'abord, Montauban a été fondée en 1144 par le comte de Toulouse, Alphonse Jourdain. Et Montauban, le nom, c'est en latin, c'est Mons Albanus, en occitan, Montalba, c'est le mont blanc, le mont lunaire, et qui succède en fait à un bourg monastique. Il y avait là un couvent, un monastère bénédictin, de Montoriol. Montoriol, c'est Mons Aureolus, Mont Aurol, Aureol, c'est le mont doré, qui aurait été, semble-t-il, un ancien oppidum périphérique, une hauteur fortifiée de la périphérie du territoire des Kat ou Turki, les Kadourks, si vous voulez, vis-à-vis du pays de la vallée du Tescou, le pays des Tascones. Alors, disons, les Tascones, ça veut dire les blaireaux, les Katurki, qui ce sont les druides sangliers, peu importe. Mais ce qu'on sait, c'est que dans tout le territoire européen correspondant aux anciens territoires celtiques, on s'est aperçu que le territoire de chaque peuple celtique, les Kadourks dans notre cas, les Petrocor pour le Périgord, etc., le territoire était certes centré sur un oppidum sacral central, venu moins important, supérieur, mais tout le pourtour du territoire était marqué par des oppidas secondaires qui sont restés encore de nos jours, jusqu'en plein 19e, 20e siècle, des lieux de foires et de fêtes périodiques, saisonnières. Alors, j'ai un exemple simple dans le pays de mon père, en Saint-Onge, Cognacé. C'est par exemple la foire du lundi de Pentecôte à Barbezieux. On a la même chose ici en Quercy. La Saint-Joseph serait en quelque sorte l'héritière, la grande foire de Montauban le jour de la Saint-Joseph, 19 mars, équinoxe de printemps, serait l'héritière d'une vieille fête celtique locale qui aurait donné naissance à une foire, au site qui va devenir par la suite celui de Montauban et qui était annexe voisin de celui de Montauriol. Autre chose, pour en revenir à la symbolique de Rocamadour autour des fêtes de l'Annonciation, de la Fête-Dieu, de la Saint-Jean-Baptiste, de la Nativité de la Sainte Vierge. Et je vous avais parlé, lorsque ces fêtes se rencontrent selon certaines années particulières, il y a une correspondance, une coïncidence entre ces fêtes, et cette année-là, l'année est celle à Rocamadour de pèlerinage, de grand pardon, des années jubilaires, où tous les pèlerins sont pardonnés de leurs péchés à condition d'accomplir certains rites bien particuliers, notamment monter le grand escalier de Rocamadour sur les genoux en récitant le chapelet. Or, c'est là l'apport d'une historienne connue, archéologue, Marie-Thérèse Touvenin-Boulestin, dans sa thèse de l'école du Louvre sur l'âge du bronze dans l'Écosse du sud du Massif central et du Quercy. Marie-Thérèse Touvenin-Boulestin a repris une partie de sa thèse dans un article publié dans l'ancienne revue Notre Histoire, la revue de Bayard Press consacrée à l'histoire religieuse de l'Occident et même de l'histoire religieuse en général. Et elle a montré, s'est aperçue que Rocamadour devait sa sacralité à des cultures et à des civilisations bien plus anciennes que le christianisme. Elle a montré que Rocamadour était aux origines, sur les grandes voies de commerce des métaux allant depuis l'arc alpin vers l'Atlantique et le Finistère de Galice, l'actuel Saint-Jacques-de-Compostelle, territoire innervé, desservi, structuré par de très vieux chemins allant par monts et par veaux, et qui ne suivent pas du tout les axes de grandes rivières qui structurent l'espace géographique de l'ancienne Gaule, bien vu par Strabon. Et ça, c'est Michel Roblin qui l'a montré sur les grandes voies de communication de l'Est vers l'Ouest. Alors, Marie-Thérèse Robin-Boulestin s'est aperçue que Rocamadour jouait sur ces grandes voies, ces grands axes de commerce des métaux, des minerais, des Alpes vers l'Occident. Un rôle de station où, à l'âge du bronze, le chalcolithique, et depuis le néolithique et même peut-être plus avant encore, des trafiquants portant des métaux et en faisant le commerce et approvisionnant les premiers forgerons, les premiers métallurgistes dans leur fabrication d'outils divers. Ces trafiquants entreposaient à Rocamadour dans des grottes des métaux bruts qu'ils y laissaient en quelque sorte mûrir la terre mère, la déesse noire, d'où la Vierge noire de Rocamadour, faisait mûrir ces métaux et les faisait se transmuer et acquérir des capacités, des qualités, une nature différente de celle qu'ils avaient lorsqu'ils avaient été déposés dans ces grottes, dans ces antres souterrains. N'oubliez pas que toute l'archéologie, la géographie sacrée de Rocamadour est fondée sur des souterrains, sur des antres, des grottes. La grotte où aurait été retrouvé le corps de Rocamadour, de Saint-Amadour, la basilique Saint-Amadour sous Saint-Sauveur, tout est tourné autour de grottes dans la falaise. Et cette falaise de Rocamadour serait en quelque sorte un lieu de maturation des métaux sous le patronage d'une déesse mère, une déesse de la terre, qui va survivre encore de nos jours sous la forme de la Vierge Noire de Rocamadour. Vierge à l'enfant, je dis bien. Donc Vierge à l'enfant, c'est Isis la Noire, c'est Horus. On a là, si vous voulez, une symbolique beaucoup plus ancienne que le christianisme qui ressurgit dans ce pays de Quercy à propos des fêtes tournant autour de l'équinoxe de printemps, Annonciation et du solstice d'été, Fête-Dieu Saint-Jean-Baptiste, qui culmine pour la Nativité de la Vierge, grand pèlerinage diocésain, mais fêtes, si vous voulez, qui sont celles où le Quercy exprime ainsi sa vision d'un univers qui est sous la dominance de forces de la nature qui vont prendre, à l'époque chrétienne, l'aspect, la figure de personnages, de noms, de la religiosité populaire et fondée sur les Écritures saintes. Alors, ce n'est pas sans raison si, à Rocamadour, la fête du Saint-Sacrement, lorsqu'elle correspond à la fête de la Saint-Jean d'été, se traduisait par quoi ? Par des processions, avec des reposoirs, ostensions du Saint-Sacrement, dans le grand ostensoir en forme de soleil radiant, que l'on a conservé encore, par exemple, à Saint-Hilaire de Montcuq. Ce qui fait que, lorsque Pâques était le 25 avril, jour de la Saint-Marc, un mois après l'Annonciation, 25 mars, et deux mois après, fête Dieu, procession du Saint-Sacrement dans un ostensoir en forme de soleil radiant, qui tombe le jour même de la Saint-Jean-Baptiste, solstice d'été, paroxysme de l'activité du soleil. Il y a donc là, si vous voulez, à Rocamadour, ce surimposant, à époque chrétienne, à la religiosité de la terre-mère, de la déesse noire, un culte des rites du dieu solaire triomphant, le Christ, soleil de justice. Et en hébreu, la justice, c'est la sainteté. C'est-à-dire, c'est la conformité envers la loi de Dieu qui fait de vous un saint, c'est-à-dire quelqu'un qui est appelé par Dieu, mis à part. Ce que veut dire la racine hébraïque signifie littéralement celui qui est mis à part. C'est l'élu, le peuple élu. Le saint, c'est l'élu, c'est celui qui est choisi par Dieu et qui est mis à part. Alors que le juste, c'est celui qui vit selon la loi de Dieu, selon les règles de la Torah. On a là donc, si vous voulez, en Quercy, quelque chose qui ressurgit et qui n'est pas sans intérêt pour l'historien et même, je dirais, pour le mythologue. Prenons un exemple simple. Lorsque le 25 mars tombe un vendredi saint, l'Annonciation correspond à la date de la mort du Christ. Mort du Christ, soleil de justice, qui se traduit par une éclipse pendant 3 heures, par toute la terre d'Israël, nous dit l'Évangile. Car lorsque l'Évangile parle de toute la terre, vous irez prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, il faut bien comprendre. C'est la terre d'Israël, c'est la terre sainte. Le jour du vendredi saint, mort du Christ, mort du soleil de justice, éclipse qui dure 3 heures sur toute la terre, le rideau du temple se déchire en deux. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint des Saints est ouvert à tous. Le Saint des Saints, le lieu de la présence divine, est visible de tous. Les rocs se fendent, les tombeaux s'ouvrent et les morts ressuscitent. Les rocs qui se fendent, pensons à Saint Jean le Froid, au mythe de Saint Jean le Froid, où le Baptiste fend le rocher d'un coup de crosse et fait naître la source, qui va couler jusqu'à la fin des temps. Le 25 mars, peut-être aussi en Quercy, le jour de Pâques. Et alors ce jour-là, le Christ ressurgit du monde des morts. Résurrection qui se traduit par la résurrection de tous les justes de l'Ancien Testament, qui ressuscitent, selon les évangiles, à Jérusalem et se montrent à tous. Les évangiles nous disent que même jusqu'à 500 justes de l'Ancien Testament ont ressuscité et se sont montrés à tous. Il y a donc, si vous voulez, dans la mythologie religieuse du vieux Quercy ancien, centrée sur Rocamadour, une insistance sur le 25 mars et le solstice d'été comme date clé, l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Ce n'est pas donc sans intérêt lorsque on réfléchit à ce que je vous dis tout à l'heure sur la symbolique de l'amandier, la floraison de lumière éblouissante de l'amandier à la mi-février dans nos dictons, au mois de mars dans la réalité, amandier qui fleurit pour le Nowruz persan, la nouvelle lumière, le 21 mars. L'observation de la fleur d'amandier est aux origines même du dessin de la mandorle, l'amande ouverte, le losange, la fleur de lumière. Et cette nouvelle lumière éclatante va présider à la vision et à la conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas, le 25 janvier. 25 janvier, 25 mars, 25 avril, 24 juin. Voyez-vous des dates qui se suivent toujours à peu près au même moment, du mois solaire. Que se passe-t-il le 25 janvier? Conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas, ascension mentale jusqu'au troisième ciel, vision et paroles ineffables, il voit le Christ en Dieu, etc. etc. Si vous voulez, Saint Paul devient un apôtre. On a donc dans le Quercy ancien, au travers tous les proverbes qui tournent autour de 25 janvier, 25 mars, 25 avril, 24 juin, une vision du calendrier qui en fait un temps, qui coule comme un flux, mais un flux en cycle répétitif. Il y aurait un éternel retour. Un éternel retour du temps, c'est qui est une notion différente de la nôtre, comme flux infini. Pour nous, le temps est un flux infini. Ce flux se confond avec l'être et temps en soi. L'être en soi, c'est l'éternité. L'éternité, c'est l'être de Dieu hors du temps. Il y a donc là, si vous voulez, un problème de définition du temps et de l'éternité à source de confusion et de distinction qui sont aux origines de différentes hérésies de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge, arianisme, catharisme, hérésies qui vont être en quelque sorte condamnées puis qui disparaîtront et le problème sera résolu par les définitions conciliaires qui vont donner naissance à notre vision du temps comme flux infini en cycle répétitif, mais flux ascensionnel vers le retour du Christ à la fin des temps, vers le jugement dernier. Cela serait donc en quelque sorte ce qui se résumerait, se concentrerait dans la vision, la culture du Quercy ancien Et je me suis demandé, est-ce que cette vision des choses n'aurait pas préparé le Quercy, les autochtones du Quercy, à la réception du christianisme? Tout comme la même chose s'est produite en Irlande. Lorsque Saint-Patrick a christianisé l'Irlande, il a bien semblé à Saint-Patrick que le druidisme avait préparé l'Irlande à la christianisation. Et cette vieille religion d'avant le Christ se retrouverait dans ce que me disait à propos de Saint-Jean le Froid, notre fameuse plus que guérisseuse de Montcuq, qui me parlait de la vieille religion des temps anciens. Alors voilà ce que peut-être on peut trouver à partir d'une analyse assez difficile à suivre, parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à dire, sur la valeur symbolique de l'équinoxe de printemps comparée au solstice d'été et d'hiver. Pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un très vieux schéma calendaire qui dort dans les coutumes et les traditions dont nous n'avons pas conscience, mais qui a été conservé dans des traditions locales, populaires, religieuses, communautaires, et qui encadrent notre façon de voir les choses. Voilà, je voulais vous dire beaucoup plus de choses aujourd'hui, mais bon, ce sera pour une autre fois. Et j'espère que lorsque nous reverrons dans 15 jours, la situation sera bien meilleure qu'aujourd'hui, pour tout le monde. Merci bien, au revoir et à une autre fois. Tenez-vous bien.
Sen van sus la prado, ta sen an amuzar. Que a un alet pastor, vengit nun ya pas guaire. Dio quin beciaire, quen charma las quivu, se giu sabi deu pla. Yo bailarimon cor, yo bailarimon cor, sin eras fide yo to, toco emanoto, emelo serment, las dos amis dos otos, non finirai a me. Non ia pas nat camin che non aia traverso. Diu quin comerso la vita resai mar per un moment de febreso sin scar.